France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui de la machine à vapeur au TGV, une histoire des trains. Il faut donner les chemins de fer comme des jouets, mais jamais on n'y transportera un voyageur ni un bagage. Adolphe Thiers, 1836. Ans d'histoire. Jamais une invention n'a provoqué autant de scepticisme et de méfiance que le train. Simple jouet sans utilité, comme le disait Adolphe Thiers, les chemins de fer pouvaient même, disait-on, provoquer des maladies et faire tourner le lait des vaches dont la principale distraction, on le sait, est de les regarder passer. On comprend donc la peur qu'ont dû éprouver les paysans anglais le jour où, en 1830, quelque part entre Liverpool et Manchester, ils ont vu passer pour la première fois une étrange machine à vapeur qui roulait, tenez-vous bien, à la vitesse prodigieuse de 50 km/h. Elle était si rapide que son inventeur, George Stephenson, l'avait appelée la roquette, la fusée. C'était le début d'une aventure qui, en 175 ans, a fait rêver des générations de voyageurs qui peuvent aujourd'hui rouler dans des machines 10 fois plus rapides que celles de Stephenson. France Inter, Patrice Bertin, le 18 mai 1990.
Entre Courtalin et Tours, ce matin, le TGV Atlantique a de nouveau battu son record du monde de vitesse à 515 km/h 300. Première évidence, un train à ce train-là, ça fait un bruit d'avion. Deuxième évidence, c'est très impressionnant de rouler à plus de 500 à l'heure. Réaction d'un passager cobaye, ancien cheminot, au micro de Nathalie Fontrelle.
J'en ai eu la chair de poule, les larmes aux yeux, et puis on était dans un super nuage. On avait l'impression de voler, on se demandait si c'était réel. Et puis c'est la journée la plus belle depuis que je suis cheminot, depuis 63. La plus belle journée de ma vie.
André Papazian, bonjour.
Patrice Jodinet, bonjour.
C'était le record du monde de vitesse sur rail en 1990, 515 km/h. Je crois que c'est un record qui n'a jamais été dépassé depuis. Vous le rappelez
tout
dans un beau livre des éditions Ouest France, La fabuleuse aventure des trains. Une aventure qui commençait, je crois, il y a 201 ans, en 1804, avec un Anglais dont tout le monde a oublié le nom et qui s'appelait Richard Trevithick. C'est lui qui a inventé la première locomotive.
Effectivement, le chemin de fer est né grâce à la volonté d'un homme, Richard Trevithick, qui va développer la toute première locomotive, celle que l'on peut considérer comme étant la toute première locomotive, où il va adapter la traction par la vapeur, il va travailler sur l'adhérence et il va mettre au point ce premier engin qui véritablement va entrer dans l'histoire des chemins de fer.
Oui, parce que c'est le mariage entre deux inventions très antérieures.
Hein, Tout à fait.
La machine à vapeur, alors il y a Cugnot, il y a Watt, il y a des gens qui avant, Trevithick avait découvert Papin, oui.
Voilà.
Et puis alors le rail qui existait déjà depuis 200 ans, je crois que les premiers rails qui servaient à transporter du minerai dans les mines,
tout à fait, des rails
étaient en bois.
Étaient tout à fait en bois, oui. Là, on va utiliser des rails métalliques beaucoup plus tard, lorsqu'on va se rendre compte que le problème d'adhérence est un problème majeur pour le développement des chemins de fer. Oui.
Alors Trevithick donc construit un prototype qui va faire rouler en public en 1804 sur 15 km dans le pays de Galles. L'engin, je crois, pesait 5 tonnes. Il avait 5 wagons. Il contenait chacun 10 tonnes de fer avec 70 hommes. Mais alors son invention n'intéresse personne. Le pauvre Trevithick, il est parti en Amérique du Sud et puis il est revenu en Angleterre, oublié de tout le monde, complètement ruiné. En 1833, il est mort à ce moment-là, laissant au fond la voie ouverte à celui que l'on considère, mais ce n'est pas tout à fait vrai, comme l'inventeur du train, c'est Stephenson, André Papazian.
Oui, il est vrai que Trevithick a ouvert la voie, mais il a aussi suscité des vocations. Ses travaux ont été étudiés de plus ou moins de près par certains de ses confrères et néanmoins concurrents, et diverses tentatives vont être réalisées au cours des années suivantes. Lui, lorsqu'il va revenir dans son pays, le chemin de fer n'est pas encore totalement sorti de son problème d'invention, même si les Stephenson ont réalisé un très très grand progrès, il faut passer à la vitesse supérieure et pouvoir transporter plus, toujours plus vite et toujours plus loin. Se pose le problème des financements, se pose le problème des acquisitions de terrain. En fait,
et puis des résistances.
Et des
résistances. Il y a des gens qui disent, mon Dieu, quelle horreur, ça va être abominable, c'est la fin du monde.
En général, chaque progrès est assorti toujours de scepticisme. Là, le chemin de fer est accueilli par un concert de scepticisme grandiose. On va même jusqu'à préconiser des maladies phénoménales pour les voyageurs. Mais le monde des cheminots est fait de gens têtus, volontaires, passionnés. Et le père Stephenson et son fils vont mettre au point la fameuse patentie qui va circuler sous le nom de la Roquette au départ et qui va donner naissance à beaucoup, beaucoup de l'autre locomotive et qui vont essaimer un petit peu des lignes dans le monde entier par la suite.
Alors en France, qui va prendre le train en marche, si je puis dire, avec une première ligne entre Andrézieux, je crois, et Saint-Étienne. Oui. Puis il y aura la première ligne de voyageurs entre Paris, Saint-Germain-en-Laye via le PEC.
Avec un détail, oui. On va éviter que le monarque de l'époque monte à bord du train. On va faire monter sa femme de peur qu'il y ait un accident soit à déplorer ce jour-là. Oui, oui. Tout à fait.
Et puis alors toute l'Europe, l'Allemagne, la Belgique, oui, va s'y mettre. Et puis oui, alors, ça va se développer plus vite encore en Amérique où le chemin de fer va servir à la conquête de l'Ouest en reliant en 1869 les côtes Est et Ouest des États-Unis.
Claire, une voie ferrée de cette longueur, c'est le rêve d'un fou.
Ah, nous vivons en un temps fantastique.
Un chemin de fer du Missouri en Californie. Voler dans les airs pendant que vous y êtes.
Le président Lincoln est pour.
C'est la plus grande folie qu'un cerveau humain ait jamais conçue.
Cette voie ferrée sera l'avenir des États-Unis. Le long de ses rails, de nouvelles villes naîtront.
Mesdames et messieurs, le dernier rail qui termine le plus grand effort ferroviaire du monde entier vient d'être posé. Et le dernier tire-fond nécessaire à l'union de l'Atlantique et du Pacifique est sur le point d'être enfoncé. Puisse Dieu confirmer l'union de notre pays, de même que ce chemin de fer unit les deux grands océans du monde.
C'était l'extrait d'un film oublié de Cécile B. DeMille, Pacific Express, et l'histoire de ce qui, en 1869, quand il a été inauguré, était le plus long train du monde, André Papazian. C'est un projet gigantesque, ce transaméricain.
Tout à fait. Aux États-Unis, ils ont aperçu que le chemin de fer est un moyen de développement, mais aussi un moyen de faire transporter des troupes et de transporter du matériel.
Ah bon, c'était la guerre contre les Indiens.
Non, mais c'est un moyen de contrôler beaucoup mieux certaines régions encore pas totalement acquises. Et puis, c'est un moyen rapide, c'est un moyen facile pour emmener beaucoup, beaucoup de choses, y compris des militaires. Donc, la guerre de sécession est à l'origine de cette formidable aventure. Mais les chemins de fer sont nés aux États-Unis pour mieux desservir le pays, pour le mieux l'irriguer, pour lui apporter plus de denrées. C'est d'ailleurs ce qui va permettre au réseau américain d'être l'un des plus grands, des plus vastes. Un tiers du réseau ferroviaire mondial était aux États-Unis.
Il faut rappeler qu'à l'époque, le canal de Panama n'était pas inauguré. Non. Donc, quand le transport de la côte Est à la côte Ouest se faisait par bateau en passant par le Cap Horn. Voilà. C'était quand même quelque
effectivement,
chose.
Effectivement, il faut
souligner. Donc, le train a permis de couper.
Le chemin de fer est à l'origine une invention destinée au transport des marchandises. Ça, c'est une fonction première du chemin de fer. Donc, il est important de dire que lorsque les chemins de fer se sont développés aux États-Unis, il était avant tout destiné à promouvoir tout ce qui était économique et tout ce qui était au niveau donc social.
Aussi. Oui, d'ailleurs, il est parallèle, comme d'ailleurs le sera le transsibérien un peu plus tard, à travers toute la Russie, beaucoup plus long encore. Mais au fond, il est contemporain de la révolution industrielle. On peut même dire qu'il l'a provoqué quand on sait à quel point le chemin de fer, comme son nom l'indique, a consommé d'acier, qui était avec le textile une des deux grandes industries du 19e siècle, à quel point il consommait de charbon. C'était vraiment le point de départ. Il est associé à la révolution industrielle, André Papazian.
Donc vous revenez effectivement à ce que je disais tout à l'heure. Le chemin de fer est avant tout un moyen économique, est un moyen de transporter le plus possible de marchandises. Il va participer, il va engendrer cette formidable essor économique et il va participer à cette révolution industrielle. Il va donner naissance à des dizaines, même des centaines de firmes dans le monde entier qui vont employer de plus en plus de monde. Il va y avoir un véritable mouvement en bourse. Je rappelle que la plupart des entreprises ferroviaires seront sont cotées en bourse.
C'était privé, au début.
La quasi-totalité des entreprises étaient privées. On y trouve des actionnaires fort célèbres. On y trouve des gens qui ont cru dès le départ au développement des chemins de fer dans le monde et qui gagneront beaucoup, beaucoup d'argent.
Alors, ce chemin de fer, en fait, depuis le premier, depuis celui de Trévitic, c'est d'abord essentiellement et presque uniquement une machine à vapeur, des locomotives à vapeur, qui faisait l'orgueil des cheminots qui, comme Jean Gabin, dans La Bête humaine de Renoir, faisait visiter sa machine à sa petite amie, jouée par Simone Simon.
Voilà.
C'est drôle, ce nom que vous lui donnez, la Liseau.
Ah, quand on aime quelqu'un, on a pas idée de l'appeler avec un numéro,
Je peux monter?
Vous allez vous salir?
Ah,
c'est rien. Attendez. Faites attention, parce que vous savez, ici, c'est plein d'huile et de charbon.
Oh, c'est chaud.
Ah, bah dites donc, elle en mange du charbon.
Oh, moi, je m'y perdrais dans tout ça.
Bon, vous savez, c'est une question d'habitude. Elle est belle, ma machine, Vous savez que c'est peut-être la plus belle machine du réseau, la meilleure.
Vous l'aimez, votre machine?
On a eu tellement de choses ensemble.
Tellement de choses?
Ben oui, quoi, sur la ligne, on voit tout, on connaît tout.
Avec cette vitesse?
Bien sûr.
Quand j'éprouve subitement l'envie de changer d'air, je n'hésite pas un moment, je prends le chemin de fer. Les avions, les 100 chevaux, ça ne me fait pas peur, mais je pense que rien ne vaut la machine à vapeur. Je trouve épatant de rouler sur des rails, tout en dégustant du saucisson à l'ail. Quand je suis dans le train, ça roule, ça roule, ça roule. Je mets les pieds sur les coussins, tout comme font les rupins. Je m'en vais au hasard, ça roule, ça roule, ça roule. Une fois qu'on a pris le départ, on arrive bien quelque part. Puis, quand je veux me distraire, je vais faire un tour au water. Je regarde le décor, ça roule, ça roule, ça roule. Et je me figure alors que je roule sur l'or.
Et c'était « Ça roule » chanté par Dranem dans les années 30, à une époque où le chemin de fer n'était pas seulement un moyen de transport, André Papazian, c'était aussi un peu une machine à rêve.
Tout à fait. Parallèlement donc à ces développements économiques, le chemin de fer va découvrir le transport des voyageurs. Et un certain Nigel Mackers, un jeune Belge qui était parti aux États-Unis, oublié un chagrin d'amour, a découvert qu'on pouvait faire transporter les voyageurs de manière beaucoup plus confortable. Cette idée, il l'a trouvée évidemment aux États-Unis, où il était allé se promener, et il va l'adapter. C'est un certain George Mortimer Pullman qui avait à l'origine inventé les premiers wagons-lits, qui étaient en fait des vraies voitures dortoirs en fait au départ. Donc le rêve sur rail va prendre naissance sous la forme de multitudes de trains de luxe, dont le plus célèbre reste aujourd'hui évidemment encore l'Orient Express, dont on parle presque quotidiennement.
Nigel Mackers, c'est le fondateur de la compagnie nationale des wagons-lits. C'est ça?
Alors Nigel Mackers est le fondateur de la compagnie internationale des wagons-lits. C'est un visionnaire de son époque, c'est quelqu'un qui était prédestiné à suivre les traces de son père, qui était un riche industriel et banquier, mais qui va préférer devenir un entrepreneur audacieux, qui va réussir à faire conclure des contrats entre Paris et Istanbul, c'est-à-dire 14 entreprises différentes qu'il va falloir mettre à la même table, à des époques où il y a des inimitiés plus qu'historiques, et on va pouvoir conclure et faire passer un train de Paris à Istanbul.
Alors, il n'y a pas que ça qui pose problème, vous le rappelez, André Papazian. Il y a la différence d'écartement des rails. Ouais. Alors, la plupart, je crois, des premiers trains en France, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, l'écartement elle-même, c'est, je crois, 1,435 mm.
Tout à fait.
Précis.
Faut être précis. Oui,
mais alors, ce qui m'a amusé en vous lisant, c'est qu'à l'origine de ça, il y a quoi?
L'origine de ça, c'est l'adaptation d'une caisse de diligence. On a pris simplement l'écartement des roues d'une diligence, puisque les toutes premières voitures étaient en fait des diligences sommairement aménagées, ou des tombereaux qui étaient des caisses de diligence, tout à fait. Donc on va se focaliser sur l'écartement dit standard, mais par la suite, pour des questions très souvent militaires, certains pays qui ont des voisins un peu turbulents vont utiliser des écartements autres, ce qui sera le cas
plus grand,
de la Russie, beaucoup plus grand, 1,524 m pour les Russes, 1,626 m pour les Espagnols, encore plus large, mais il va y avoir des écartements beaucoup plus faibles, comme l'écartement métrique ou l'écartement dit bosniaque de 760 mm, qui sont beaucoup plus faciles à ingérer dans des régions montagneuses ou difficiles d'accès.
J'ai même vu plus petit encore, André Papazian, dans votre livre, où vraiment, il n'y a pas un boulon qui manque, pas un tire-fond qui manque, 0,38 cm, je crois.
Tout à fait. Ce sont des chemins de fer de parc. Le chemin de fer du Lilliputbahn à Vienne, oui, capitale autrichienne, avec de véritables locomotives à vapeur qui sont d'authentiques machines construites par des constructeurs professionnels et qui acheminent dans le fameux parc du Prater, rendu célèbre par un film, je crois, qui s'appelle Le Troisième Homme, où on voit ce petit train emmenant ses touristes et qui existe toujours aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a différentes sortes de trains. On parle essentiellement des grandes lignes, des rapides, mais il y a aussi, vous les incluez dedans forcément, les trains souterrains que sont les métros, par exemple.
Il y a évidemment les métros qui sont considérés comme des véritables chemins de fer, qui suivent les mêmes polices que l'ensemble des chemins de fer, et qui ont permis de développer beaucoup, beaucoup de métropoles, tant en Europe que dans le monde entier.
Alors les écartements n'ont pas changé, en revanche, les moyens de locomotion ont changé, et la vapeur a progressivement disparu au profit du diesel et surtout de l'électricité, qui va permettre en 1954 à une machine française de battre un nouveau record du monde de vitesse.
Le record de vitesse sur rail n'avait pas bougé depuis 1903, date à laquelle une automotrice allemande avait roulé à 210 km/h. Trois techniciens de la SNCF viennent de bouleverser cet état de choses en portant successivement le score à 222, 230 et 243 km/h à bord d'une locomotive CC7121. Pour la première fois, un train parcourait 1 km en 16 secondes. Performance d'autant plus remarquable que la locomotrice est une machine de série, semblable à celles qui sont en service sur la ligne Paris-Lyon. Un bel exploit à l'actif de la technique française.
Ah, la CC, la BB, hein, voilà encore des lettres dont des millions de Français se souviennent. C'est peut-être moins poétique que la Lison de Jean Gabin. Oui. Mais c'est vrai, ça veut dire quoi, la BB, la CC, qui étaient vraiment les locomotives les plus connues des années 50?
En fait, c'est une expression technique. Cela correspond au bogie-moteur et au nombre d'essieux moteurs qui sont placés sur un bogie. Alors, c'est tout simple. Voilà, on va prendre la machine type BB. Ce sont des machines qui sont composées de deux essieux moteurs, donc de deux bogies de deux essieux moteurs, des BB. Les CC, c'est trois essieux moteurs, donc des CC. Alors, il y a eu des machines avec des donc quatre essieux moteurs, des 1D1, des 2CC2. Enfin, c'est terminologie assez barbare, d'accord. Je dois reconnaître.
Alors, ce sont des machines électriques qui apparaissent bien avant la BB et la CC. Hein, l'électricité, la traction électrique, ça apparaît au 19e siècle.
La traction électrique ne date pas des années 50. On a pu remarquer l'apparition des premières locomotives électriques dès le début du 20e siècle. Aux États-Unis, le Baltimore Ohio a utilisé des machines électriques. Et ensuite, par la France, avec le réseau de l'Ouest. Et puis, il y a eu aussi des lignes de l'État. Et puis, il va y avoir, dans les années 30, développement déjà de première ligne. La traction électrique pose un problème, c'est la cherté, évidemment, de ces installations. Mais elle est déjà bien ancrée et on la considère comme un moyen de transport d'avenir, d'autant plus que la traction vapeur est déjà sur le déclin, même si des gens comme André Chaplon ont démontré qu'elle pouvait être développée et améliorée.
Il y a aussi autre chose, c'est la concurrence, c'est le diesel, je crois. Alors là, c'est vraiment, notamment aux États-Unis, ça s'est beaucoup développé sur de très longues distances. Il est plus avantageux peut-être que le charbon et que l'électricité, non?
Il est évident que les performances de la traction diesel vont s'avérer beaucoup plus intéressantes, permettant de transporter beaucoup plus longtemps, sur des distances donc plus grandes, des matières premières, des denrées alimentaires, des personnes. La traction vapeur aux États-Unis, qui a connu son apogée tout de même, va représenter une bonne partie de l'ensemble de la traction, mais elle va être supplantée effectivement par la traction diesel dès la fin des années 40.
Pourquoi justement ce recul de la vapeur? Il faut peut-être rappeler ce qui est gênant, notamment c'est très contraignant. La vapeur, ça oblige de s'arrêter régulièrement pour faire le plein d'eau. Hein,
oui, tout à fait, il faut recharger du charbon. Alors que la traction diesel, à poste fixe, on peut effectivement recharger les locomotives. Bon, il est évident que la traction vapeur, un jeu de malchance, je dirais, c'est qu'elle s'est développée à une époque où les contraintes militaires étaient déjà très très bien ancrées, donc on a utilisé beaucoup de subsides pour pouvoir développer des projets militaires et plutôt de développer ce qui pouvait aider au niveau social et économique. Donc l'attraction vapeur n'a pas pu se développer totalement. On ne l'a pas laissé totalement sa chance.
Et puis en tout cas, il lui est difficile d'atteindre aujourd'hui les exploits des trains à grande vitesse. France Inter, Patrice Bertin, le 22 septembre 1981, premier jour de l'exploitation commerciale du TGV.
Au sommaire ce soir, François Mitterrand ouvre la voie, VOIE, le chef de l'État inaugure le TGV, le train à grande vitesse entre Paris et Lyon. Dans un instant, le reportage de nos envoyés spéciaux sur le ballast, Jean-Paul Bonamy, Maurice Fusier.
Attention sur voie à le TGV 607, départ 7h15. Veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture automatique des portes, s'il vous plaît.
Je veux savoir ce que vous pensez du TGV.
Formidable, très bien. Ce qui m'a surtout plu, c'est que j'avais peur un peu de la vitesse. Je suis très bien.
On n'a pas l'impression de vitesse, c'est assez agréable. Enfin, on peut dire que c'est l'autoroute du rail.
Et c'était le premier jour du TGV en 1980. On en est si fier en France, André Papazian, qu'on oublie qu'il n'y est pas né. Il vient du Japon, le TGV, premiers trains à grande vitesse.
Les premiers trains à grande vitesse, effectivement, sont nés au Japon. Le Japon organisait en 1964 les Jeux Olympiques d'été. Il avait besoin d'un moyen de transport de masse. Et comme c'est un pays assez développé, on a décidé donc de construire des nouveaux trains, les fameux Shinkansen. Donc, mise en place d'un réseau au départ limité à 200 km/h, qui représentait déjà, il faut rappeler qu'à cette époque, dans les années 60, en France, on roulait à 140 km/h.
Oui, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était des records. Oui. Mais entre le record, par exemple, celui du TGV, qui était de 515 km/h, et la vitesse moyenne commerciale, évidemment, il y a une différence.
Il faut rappeler tout simplement que si les trains étaient lents, c'est que les lignes avaient été construites à une époque où on n'avait pas du tout envisagé qu'un jour les chemins de fer pourraient dépasser des vitesses beaucoup plus grandes. Donc la plupart des lignes françaises et européennes dataient déjà de l'origine et elles avaient besoin d'être régénérées. Donc les trains ne pouvaient pas se déplacer très très vite. Donc la mise en place des 100 km/h est une véritable ouverture vers des plus grandes vitesses encore. Les Japonais vont s'y atteler, mais en France, en Allemagne, et par la suite les Anglais vont venir aussi jouer un petit peu dans cette cour qui va donner naissance à beaucoup plus tard, à la très très grande vitesse.
Les Anglais avec du retard, c'est assez curieux d'ailleurs de penser que le pays où est né le train, les États-Unis où il s'est développé de manière considérable, dans le domaine de la grande vitesse, ont pris pas mal de retard, André Papazian.
On peut dire que les...
C'est vrai que la France est bien placée.
La Grande-Bretagne a raté le coche, oui, à plusieurs reprises. Ouais. Pourtant, elle a mis en place un prototype, l'APT, qui devait permettre de relier les grandes villes anglaises à de très grandes vitesses. Mais le réseau anglais a souffert aussi de cet héritage des anciens réseaux, et la régénération coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et la plupart des entreprises ferroviaires, connaissant des difficultés, préféraient injecter l'argent dans du matériel qui paraissait beaucoup plus attirant pour la clientèle que sur le réseau.
Quand vous évoquez les difficultés, c'est vrai que le TGV arrive au moment où ce moyen de transport, le train, est, disons, un peu en stagnation, voire même en déclin du fait de la concurrence de l'avion. Et en vous lisant, on a le sentiment qu'au fond, grâce à la grande vitesse, au moins sur des trajets de moyenne distance, eh ben, non seulement le train a pu supporter la concurrence du transport aérien, mais même, on voit même des lignes aériennes qui disparaissent à cause du TGV.
On assiste aujourd'hui même à des services aériens qui sont assurés par des trains à grande vitesse. Mmh. C'est-à-dire que les deux concurrents de toujours ont réussi à trouver un point d'entente, mais le chemin de fer actuel et le chemin de fer futur son développement réside en un seul mot, c'est le mot vitesse. La vitesse est véritablement l'idée de base, mais c'est l'idée de base depuis l'origine. Hein. C'est ce qui a toujours motivé les compagnies ferroviaires.
Mais est-ce qu'on peut dépasser des vitesses comme celles qu'on a entendues, celles de 1990, je le rappelle, un record du monde inégalé, 515 km/h, est-ce qu'il peut aller encore plus vite?
Écoutez, techniquement, c'est tout à fait possible, oui. Oui, c'est tout à fait possible parce que l'on a démontré que le contact rail-roue restait toujours d'actualité et qu'il n'avait pas montré ses limites. C'est actuellement le problème de captation du courant par les fameux pantographes et les caténaires qui était le problème majeur. Mais on est en train de résoudre de plus en plus rapidement ces problèmes. Moi, je pense que ça reste tout à fait possible que dans quelques semaines ou dans quelques mois, un record puisse être battu. Oui, tout à fait.
Vous en savez des choses, mais dites-nous un peu plus. Apparemment, vous êtes au courant d'un projet qui...
Non, pas du tout. Non, non, c'est... savez, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Dès qu'une ligne nouvelle apparaît, c'est dans le cas du TGV Est, on entend par-ci, par-là, des gens dire « Oh, il y a un record dans l'air », mais ça, officiellement, on n'est pas question.
Vous nous avez dit que la première utilisation du train, c'était une utilisation de marchandises. Or, il est beaucoup question du ferroutage. Est-ce que ça aussi, c'est pas l'avenir du train ?
Alors là, le ferroutage est aussi un vieux monstre du Loch Ness qui ressort de temps en temps. Effectivement, le ferroutage est une solution d'avenir qui a été développée par les Suisses, par les Autrichiens, par les Allemands et les Tchèques. En France, on a été un petit peu réticents et maintenant, avec une volonté un peu plus affirmée, effectivement, on va assister à des premières relations et on envisage même une relation à travers la France, de Luxembourg-Perpignan, avec un train de ferroutage.
Autrement dit, contrairement aux moyens de transport qui, à cause du train, ont disparu, lui, le train risque de rouler encore longtemps.
Tout à fait, les trains. S'il a connu sa période de déclin, grâce à la grande vitesse, il est revenu au premier plan. Je pense que le chemin de fer n'a pas dit totalement son dernier mot. Il va se matérialiser encore plus dans les grandes métropoles, au niveau des trains de banlieue, mais aussi comme étant un moyen de transport entre les grandes villes de chaque pays.
Merci André Papazian. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, d'un beau livre illustré par des photographies de tous les trains de l'histoire, de la roquette de Stephenson au TGV. La fabuleuse aventure du train, publiée aux éditions Ouest France. Vous êtes également l'auteur de l'épopée des trains de France, une sélection du Reader's Digest. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La bête humaine de Jean Renoir avec Jean Gabin, disponible en DVD chez Studio Canal, et Pacific Express de Cécile Benmille, disponible en cassette chez Universal Video, ainsi qu'une archive pâtée de 1954, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire avec, dans la locomotive, Pascal Baldassari et Jérôme Pavard, les contrôleurs Claire Tesser, Camille Pouc-Gélaguier et Mathieu Ménossi, un passager clandestin, Léo Badani, et notre chef de gare et réalisatrice Anne Comilac.